En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 98 de la saison 2019-2020 de la soirée du podcast.
Bonsoir. On
2020,
man. 2020 déjà. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 31, JF Mallette. Et votre animateur, le numéro 75, JF Cromp. Va, oh, JF?
Ben oui, toi.
Ben oui, ben oui. De retour de vacances de... Alors, écoutez la musique un petit peu.
Ah ouais, l'hockey recommence.
Ah, l'automne, l'hockey recommence.
Tout le monde est de bonne humeur, les feuilles changent de couleur, c'est les élections fédérales.
Le plus beau temps de l'année après Noël.
Ouais, c'est ça, le stress commence.
Ouais, voilà, voilà, pendant qu'on fade out, comme ça la musique. Donc, juste vous rappeler que la soirée du podcast est une émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par des gars chauds, comme vous pouvez remarquer. Petit show improvisé comme ça, JF, là, en retour de saison d'été et en prévision de la saison du Canadien qui s'amorce bientôt. On va aller faire l'avant-match. Voilà, fait que c'est ça. Non, on n'est pas officiellement encore de retour pour la soirée du podcast, là, mais on repart l'horaire officiel aux deux semaines dès maintenant. Donc, juste pour vous dire ce qui s'en vient, on est aujourd'hui vendredi 13 septembre. Les fantômes du forum sont avec nous.
Oui.
Non, mais donc aujourd'hui, c'est juste un petit recap qu'on fait comme ça, improvisé à deux sur ce qui s'est passé cet été pour le Canadien. Dans deux semaines, donc le 27 septembre, vendredi, ce sera un épisode encore, toi et moi, JF, qui est le choix des pooleurs. Donc, on va activer le pool de la soirée du podcast pour la prochaine saison très bientôt. On vous tient au courant sur nos médias sociaux. Fait qu'on va faire cet épisode-là pour un peu... En fait, c'est un one-man show. C'est pour ça que je dis qu'on va être deux. C'est toi qui vas parler puis moi qui va prendre des notes pour mon pool puis finir dans la cave comme d'habitude. Puis deux semaines plus tard, donc 11 octobre, le début officiel de la saison, le début officiel du retour de la soirée du podcast. Et sera l'épisode 100 de la soirée du podcast.
Et voilà, le timing.
On va essayer d'avoir le full crew, au moins pour ça, ou c'est proche du full crew. Là. Mais donc, dès le 11 octobre, on repart jusqu'à Noël, en fait, aux deux semaines.
Et voilà, pour la demi-saison.
C'est ça, pour la demi-saison.
Oui.
Donc, juste rappeler tout le monde qu'on a des Patreons et on est très content d'avoir nos Patreons. Donc, on les remercie. Tous nos Patreons, donc patreon.com/youngmedia, qui nous... qui tiennent le fort, qui nous permettent de prolonger un an de plus RZO avec leurs donations. C'est très apprécié. Merci beaucoup tout le monde.
Sauf Matt Lamar.
Ouais, ben lui, on le remercie jamais, même s'il nous donne de l'argent.
Ouais.
Excuse-nous, Matt, là, mais lire ta diarrhée sur Twitter, non. M'intéresse pas. Jeff, aujourd'hui, vu qu'on est deux, on fera pas de période, on va y aller d'une traite. Là, puis, bon, on a eu des moves du Canadien cet été, on a des extraits audio de Bergevin et de Claude Julien.
Bon,
en fait, on revient souvent à cette date-là de l'été parce que c'est tout de suite après le tournoi de golf. Et là, il y a des extraits juteux tout le temps du franglais de Bergevin. Et puis...
Ouais, les gars sont rouillés un peu. Font tant qu'il n'a pas parlé devant les médias.
Ouais, Marc se cachait tout l'été. Pourtant, il est très bronzé. Mais on en parlera. Mais donc, c'est ça. Puis on va finir avec les trios possibles pour le début de saison parce que là, le camp des recrues est commencé.
Non, le camp d'entraînement officiel est commencé. Le camp des recrues est passé.
T'as raison.
Et voilà.
Donc, il y aura des choses à dire. Et puis, si vous voulez parler avec nous, on est sur Facebook Live et sur twitch.tv/youngmedia.
J'aimerais saluer notre collègue Alexandre Galipo qui écoute présentement What's Up Alex. Et aussi Charles Légaré, un collègue de travail qui nous écoute avec attention.
Alex qui sera de retour avec l'équipe le 11 octobre probablement pour s'engueuler pour une autre saison du Canadien encore une fois.
La passion.
J'ai hâte. Ça faisait longtemps. On était dû pour... L'été a été long pour le Canadien parce qu'on a fini tôt en avril.
Écoute, c'est quasiment 6 mois, non?
Fou, pareil. On a fait un épisode entre-temps, puis ça a été celui du repêchage.
Qui a été une belle journée, en fin de compte.
Oui. Cole Caulfield, toujours aussi content de...
Ah ouais.
Pour l'instant. Du potentiel. Donc, JF, sans plus attendre, commençons avec le résumé des transactions et des signatures faites au cours de l'été par le Canadien et par Marc Bergevin. On va aller avec les signatures. En premier, Mike Riley qui signe un contrat de 2 ans, 1,5 million par année.
Ouais, c'est raisonnable, je te dirais.
Ouais, pour Mike Riley, c'est pas trop cher à payer. Là.
C'est ça, c'est une police d'assurance.
On a en masse de place à la masse. Là, fait que,
il reste 6 millions actuellement.
C'est ça, là. Ensuite, le bon Nicolas Deslauriers qui a été échangé aux Ducks en retour d'un choix de 4e ronde en 2020.
J'étais surpris de celle-là, toi.
Pas tant.
Je sais qu'il n'y avait plus de place, mais je suis surpris du retour qu'on a eu.
Tu trouves ça beaucoup ou pas assez?
Je trouve ça beaucoup
ouais, moi
pour
aussi.
Un gars qui jouait pratiquement plus. Là.
Pour un gars qui a la face cassée en plus.
Ben oui, c'est ça, parce que c'est pas le Delorier qu'on a connu pendant sa première saison. Fait que bonne chance à toi en Californie.
Avec les Ducks, mais ouais, un choix de quatrième ronde l'année prochaine, fait qu'en 2020, j'ai hâte de voir ça. Moi, par exemple, lui qui m'a surpris, c'est le départ d'Andrew Shaw.
Ben oui, tout le monde qui, je te dirais, voulait le mettre au balotage un certain temps.
T'es-tu sérieux?
Non. Ben, je me souviens très bien que quand on a fait le premier show de la saison passée, on parlait de qui ferait le club, qui qu'on devrait mettre au balotage. Puis le nom qui est venu sur les lèvres de la majorité de nos collègues, c'était Andrew Shaw.
Okay.
Tout le monde l'haïssait, tout le monde le trouvait lent, trop cher. Mais finalement, il a connu une bonne saison.
Ouais, je me rappelle qu'on, même moi, j'ai chialé qu'il ne suivait pas à Puck, puis il y a de la misère à suivre ses compagnons de trio. Là, il était tout en arrière. Puis...
Fait qu'il est allé au-dessus de vos attentes.
Oui.
Puis,
il est rendu des fiers services. Tous les joueurs l'ont vanté aussi dans le champ.
C'est un gars qui était aimé. Puis écoute, il a fait, je pense, si je ne me trompe pas, à peu près 43 points en 60 games, peut-être un petit peu moins que ça.
Quand même bien. Hein?
Puis il jouait avec Max Domi puis Drouin pendant une bonne partie de la saison. Marc, tu vois que c'était correct parce qu'il a échangé d'où ce qui vient. Sa femme vient de là aussi.
Ouais, ben il est retourné aux Hawks en fait. Là. Ouais. Donc ça a été le deal a été Shaw et un choix de 7e ronde dans 2021.
Ouais.
En retour d'un choix de 2e et de 7e ronde en 2020 et un 3e ronde en 2021. Quand même pas payé là, comme
retour. Tu aurais pensé qu'il vaudrait autant.
Un choix de 2e ronde en 2020, c'est bon. Là. C'est...
Surtout que c'est reconnu pour être un très bon repêchage l'année prochaine encore au GF.
Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce qu'on tank pour... c'est qui l'année prochaine? C'est Alexandre.
C'est Lafrenière, un Québécois, puis le repêchage, c'est à Montréal, tu sais.
Ah oui, c'est vrai. J'avais quand même oublié ça, ce détail-là.
On attend encore notre passe pour la presse.
Ouais, faut être sur place, voir du monde dégueuler dans la foule. Puis,
crier.
OK. Je pensais que tu avais un follow-up là-dessus.
Non, j'ai juste fait comme...
On est rouillé un peu, là.
Ah ouais, ouais.
Kate Kincaid, qui s'amène avec le CH, parce qu'ils n'ont pas re-signé le bon Matanti Niemi.
Non, puis j'ai eu des nouvelles de Tanti Niemi, ouais. Justement, hier. Malheureusement, le gars n'a pas été capable de faire le club pour être gardien but numéro 1. C'est une équipe dans le KHL, qui est une équipe de la Finlande. Puis ils l'ont pas trouvé assez bon. Il y a 2 défaites actuellement avec une moyenne d'efficacité de 859. Fait qu'il est aussi à chier dans une ligue qui est moins bonne.
T'es pas si payé, là.
La première année était bon. Hein. C'est à cause de lui qu'on n'a pas eu le choix de première ronde. Parce qu'écoute, il connaît tous les matchs. Puis après ça, on est passé. Mais là, ça c'est. Tu sais, il y a des matchs qu'il aurait dû gagner. Puis finalement, Chris, on a manqué playoff de 3 points. Fait
ouais,
que
ouais.
Qui sait si Keith Kincaid, quand il va aller dans le filet, on va pouvoir avoir, je te dirais, au moins 6
fiches
gagnantes.
Parlons-en, parce que okay, Kincaid, son contrat, c'est 1 an, 1,75 millions. Fait qu'encore une fois, pas un gros risque pour un contrat à long terme. Price a dit qu'il voulait pas avoir à jouer au babysitter avec un gardien de but. Fait que. Il veut pas avoir un gardien de but recru qu'il va falloir qu'il coach. Il veut s'occuper de sa propre affaire. Pis...
Ça, c'est triste pour Lindgren, mais Lindgren n'a pas convaincu l'année passée au dernier match contre Toronto.
Mais Kincaid, me semble que c'est pas si mauvais non plus comme deuxième goaler. Là.
Non, parce que dans le fond, tu vois, Corey Schneider des Devils New Jersey, il avait une grave blessure, il y a eu une opération, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Puis Kit Kincaid était gardien de numéro 1 au New Jersey, puis on s'entend que New Jersey, c'était une équipe qui était vraiment mauvaise l'année passée. Puis il a quand même bien fait en début de saison. Il y a un bon mois d'octobre. Après ça, c'est corsé. Mais Chris, à un moment donné, c'était une équipe de la Ligue américaine qui était à sa glace. Fait que le gars, il peut pas tout faire. Puis même quand Corey Schneider est revenu, c'était pas fort non plus. Je pense que ça y a pris plus d'un an avant de gagner un match pour un goaler de la Ligue nationale. Fait que je suis content. Puis je pense que Kit Kincaid pourra peut-être, tu sais, je te dirais au moins... Ça prend une vingtaine de games, puis au moins là-dessus,
ouais,
12-13 victoires.
Ouais, ben, j'ai hâte de voir. Là. Anyway, l'équipe devant lui va être un peu meilleure qu'année passée, j'ai l'impression, à cause de la confiance. Puis des 14 livres qu'a pris Kotkaniemi cet été.
Ah, c'était 14, je t'assure, c'était 20.
Je sais pas, ça, les journalistes s'ostinent sur des niaiseries en ce moment. Comment ils ont mis le prix de livre. Je savais pas que c'était un si gros lecteur que ça. Je vais quitter, ça ne dérange pas. Donc, prochain, Nick Cousins qui signe un contrat d'un an et 1 million. JF, parle-moi de Nick Cousins.
Nick Cousins a joué avec les Coyotes de l'Arizona, l'équipe la plus dégueulasse de la Ligue, avec le DG le plus dégueulasse de la Ligue. Puis, il a joué avec Max Domi. C'est un... Je peux-tu appeler ça un plombier? C'est un gars qui joue sur le bottom six, c'est sûr et certain. Mais ça a l'air, selon Domi, c'est un gars extrêmement travaillant. Je suis allé voir un peu les analystes qui se pensaient de lui, là, tout ça. Puis, c'est un gars qui était aimé dans le vestiaire, puis un gars qui va toujours faire des petites choses. C'est un joueur d'énergie.
Ouais,
un genre de Steve Bégin, mais plus talentueux offensivement.
C'est celui que j'ai vu aussi qui ont dit qu'il faisait bien des bonnes affaires que le fan régulier ne remarquera peut-être pas. Tu sais, le fameux bon sans la rondelle, c'est un cliché. Là, mais
Mais tu sais, c'est le genre de gars qui va gagner plus souvent ses batailles à un contre un que, mettons, c'est plate à dire, là, mais Charles Hudon.
Ah, le pauvre Charles.
Ouais. On va y revenir.
Ouais, tantôt, on va y revenir. Mais non, mais c'est des joueurs que tu as besoin comme ça. Puis c'est tu sais, le focus est souvent mis quand le monde parle de hockey sur les buts, les passes, puis l'attaque, mais des fois, c'est comme tu dis, gagner des batailles sur le bord des rampes, c'est aussi important que d'aller scorer.
Puis je ne sais pas si tu en souviens, mais l'année passée, en début de saison, je te dirais, une de nos lacunes, c'était le quatrième trio, parce que quand le quatrième trio allait sur la glace, on se faisait poter. Puis c'est pour ça qu'il y a eu un gros roulement sur le quatrième trio. Un moment donné, on a ramené deux jeunes à la Ligue américaine, Kenny Agostino, puis l'autre, je ne me souviens plus c'est quoi son nom, on l'a oublié tout de suite. Là.
Ouais,
c'est un petit Québécois, désolé.
Mais ça, c'est les joueurs qu'on a dit, c'est le temps de saisir leur chance, mais quand ça finit pour eux autres souvent. Là. Ils vont faire une bonne stretch de 10 games, puis après ça, retourne en arrière. Puis,
ils ont joué quand même une vingtaine de games, mais ça n'a pas été encore convaincant pour Claude Julien. Puis là, tu sais, ils ont déchiré Thompson, là, on a lui, on a Jordan Will. Fait que je pense que le but, c'est d'avoir un quatrième trio qui est beaucoup plus stable que l'année passée.
Ouais, voilà. Puis dans les départs aussi, il y a Jordy Benn qui a quitté malheureusement avec sa... Je pense que sa barbe est restée pendant deux semaines de plus.
Oui, mais... il est retourné à la maison. Dans le fond, c'est un gars qui vient de Vancouver. Et puis, il a signé un contrat de 3 ans. Je me souviens plus c'est quoi les montants, là, mais bonne chance pour Jordy.
Mais donc, pour remplacer Jordy Benn, Ben Chiarot.
Oui.
Ben, ce nom de famille incroyable. Que
c'est, en anglais, dans le fond, c'est Chiarot.
Chiarot. En français, c'est Chiarot.
Moi, j'appelle Chariot.
Chariot. Ouais, mais ça, c'est à une lettre proche de dire ça, mais c'est encore plus hot de dire Chiarot, je trouve.
Puis écoute,
t'es pas trop sûr de quelle maladie qu'il souffre, tu sais.
Et voilà.
Mais il est comme une cystite.
Pour ceux qui le savent pas, ce gars-là joue pour les Jets de Winnipeg, puis il jouait dans le top 4. Puis l'année passée, il a joué la majorité de la saison avec Dustin Byfuglien, le part des Jets. Matt Lamont, c'était pour toi.
Bifuglien.
Et puis, écoute, je pense que j'allais avoir une nouvelle. Je vais aller voir tantôt, là, mais je pense que Mitch Marner vient de le signer avec Toronto.
Es-tu sérieux?
Je suis pas certain. J'ai une avoir de quoi qui a popé. Il faudrait que j'aille voir tantôt.
Je vais aller voir.
Pour revenir à Ben Chiarot, c'est un gars qui jouait au-dessus de 20 minutes avec les Jets de Winnipeg. Puis on s'entend que les Jets, c'est pas une équipe qui est méchante d'un côté. Là. Puis ont eu quand même... Tu sais, Byfuglien, il était blessé, puis... T'sais, il y avait une bonne défensive, il n'y avait pas nécessairement de la place pour lui en avantage numérique, malgré le fait qu'il y a un excellent tir. C'est un gars qui a un boulet de canon. T'sais. Puis il est beaucoup mieux défensivement. C'est pas le gars qui va patiner d'un bord pour l'autre. Parce que moi, quand Jordy Benn faisait ça, j'étais tout le temps sur le bord de faire une crise de cœur parce que, écoute, les revirements qu'il y avait là-dessus, c'était dégueulasse. Mais je pense qu'il va amener plus de stabilité devant le filet. Puis en même temps, mais c'est un gars qui est beaucoup plus physique.
Ouais.
Fait qu'il va ramasser des gars. Puis d'après moi, Claude Julien le voit déjà avec Jeff Petrie. Fait que j'ai hâte de voir. C'est un gars, je veux voir qu'est-ce que ça va donner dans le camp, mais surtout qu'est-ce que ça va donner au départ en début de saison. T'sais, il est mieux de faire bonne impression tout de suite parce que ça pourrait aider l'équipe.
Jeff, on fait jamais ça, mais.
Ah! L'aurait su.
Breaking news. Le dossier Mitch Marner est maintenant réglé et a signé un contrat de 6 ans avec les Leafs.
On ne sait toujours pas c'est de combien.
King Matthews. Non, ils ne disent pas en ce moment. 22.
Hein, écoute, si on peut faire une parenthèse, je sais que cette semaine, ça a été dévoilé que Mitch Marner avait refusé un contrat de 8 ans, 11 millions par année. Fait que là, c'est 6 ans. Écoute, mon guess, on va le voir tantôt, là, j'imagine, là, d'après moi, ça devrait être, je te dirais, 11,5 en moyenne par année, ouais. À peu près. Puis là, dans le fond, avec un contrat de 6 ans, mais les Leafs ont réussi à acheter une année d'autonomie parce que Mitch Matthews, lui, devient joueur autonome un an avant. Fait que bravo aux Leafs.
Puis c'est bon pour Marner parce qu'en pognant un contrat de 6 ans, non de 8 ans, là, il y a 22, il va avoir 28 quand son contrat va se finir. T'es encore actif dans la Ligue nationale à cet âge-là. Peut aller rechercher un autre bon montant.
Il va gagner le jackpot probablement. Puis,
ailleurs, parce que
ça va peut-être être un effet domino sur les autres agents libres avec restrictions, qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas signé. Fait que c'est cool.
Mais là, il devrait être à côté de sa masse, les Leafs.
Il y avait de la place parce que les Leafs sont.
Ils n'ont pas racheté un contrat de quelqu'un d'autre. Ils ont ramené un joueur, mais.
Ils ont été chercher David Clarkson, mais c'est parce qu'il y a comme une crosse dans la masse salariale. Que, mettons, un joueur qui est haut payé, tu peux le mettre dans le injured reserve.
Ouais.
Puis c'est comme si son salaire était crédité. Fait que David Clarkson, c'est sûr qu'il joue pas. Puis l'autre joueur aussi qui est blessé, il y en a deux. Là. Je me souviens plus c'est quel le deuxième. Ouais, c'est là. Mais c'est sûr c'est un taux de cul, si je me souviendrais.
C'est un gars de Toronto.
Puis en plus, ils ont échangé Patrick Marleau.
Ouais.
Pour, en échange, ils ont donné un choix de première ronde pour se débarrasser de Patrick Marleau. Fait que déjà, en partant, les Leafs commencent la saison sans choix de première ronde. Fait qu'à date limite, il n'y aura pas grand-chose à donner s'ils veulent jamais, mettons, s'armer pour les séries. Parce que les gars, je pense que ça fait quasiment au-dessus de 30 ans qu'ils n'ont jamais gagné une ronde en série. Fait que...
Ouais, c'est quoi? J'ai lu un tweet là, l'autre fois. C'était « Hey, c'est une grosse année de sport à Toronto. »
C'était quoi? Les Raptors.
Les Raptors de la joueuse de tennis, là.
Andreska. Andreska, ouais.
Ouais, elle, là. Puis il y avait comme les Leafs ont fait une première ronde de série. Les Leafs.
Et voilà.
Rien à dire de plus.
Typical Leafs.
On revient sur les signatures de Jeff du CH. Arturi Lehkonen qui signe une prolongation de contrat de 2 ans à 2,4 millions par année.
Très honnable.
Super bon. Bien content. Il faudrait qu'il y en mette dedans un petit peu plus cette année. Mais
on va voir.
Je suis confiant. Quand même confiant. Et similaire à son contrat, Yoel Armia signe une prolongation de 2 ans à 2,6 millions, lui.
200 000 de plus.
Lui, il vaut 200 000 de plus. C'est pocket change.
Ben, dans le fond, ce qui amène de plus qu'Armia, c'est qu'il est beaucoup plus gros. T'sais, c'est un de nos plus gros attaquants qu'on a dans la formation actuellement.
Ouais, fait mais on a Kotkaniemi, il a pris 14 ou 20
000. Oui, c'est vrai, il est rendu dans cette catégorie-là.
Manger beaucoup de poutine. Il est très, très mint.
Ouais.
Et dernière signature, et non la moindre, Charles Ludon. Très surpris d'ailleurs qu'ils ont signé Charles Ludon. Prolongation du contrat, 1 an, 800 000.
Oui, il avait refusé leur
c'est qualitative. C'est un contrat de...
C'est un one-way.
C'est un one-way, mais c'est un contrat d'entrée, ça, à 800 000, c'est le minimum? Ou c'est 700 quelques mille, je pense?
Écoute, je ne suis pas sûr là-dessus que la question que tu me poses, Jeff, le salaire minimum. Avant, c'était 600 000, je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est un contrat garanti de 800 000. Fait que s'il va dans la ligne américaine, c'est ce salaire-là qui va être payé. Et puis, tu sais, ce gars-là, dans le fond, aussi, l'autre affaire, l'avantage qu'il voit là-dedans, c'est que s'il ne fait pas le club, il va pouvoir se retrouver au balatage puis espérer qu'un club va le ramasser. On va le savoir d'ici 2 semaines, puis genre de voir ce que Charles va montrer sur la glace. Le gars a perdu 17 livres, JF, au cours de l'été. Il dit que, là un an, les membres du Canadien lui ont dit « ça serait peut-être bon que tu prennes du poids ». Il a connu une saison minable. Fait que lui, il s'est dit « là, j'ai décidé de faire le contraire de ce qu'ils m'ont dit. J'ai perdu 17 livres pour être plus rapide. » First of all, fuck you.
Mais était-tu gras ou il a juste perdu comme de la masse?
Écoute, t'as 17 livres, il était pas baquet. D'après moi, il a perdu, Chris. T'as fait une dépression, Colis. C'est sûr que c'est ça, Jeff. Écoute, t'as Charles Ludon qui broye en direct à la télévision devant des journalistes. Puis les seules personnes qui broyent en direct, c'est ceux qui se font éliminer occupation double. Fait que viens pas me dire, si tu t'es en train de te plaiter. Il y avait un article dans la presse qui disait « Ah, j'ai décroché complètement du hockey, j'ai décidé de vraiment genre prendre ça easy cet été. » Tu t'es pas entraîné, man. T'es d'anorexique.
Ah, mais d'abord, s'il a perdu du poids, c'était parce qu'il a perdu du muscle. Le muscle est plus pesant que la graisse.
Puis tu sais quoi la lacune de Charles Ludon, Jeff? Sa première plus grosse lacune?
Son agent.
Il gagne. Ben, je sais pas c'est qui son agent, doit être son grand-père. C'est un gars-là a de la misère d'un bataille à un contre un. Il perd souvent la rondelle. Là, il est rendu moins gros. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver, tabarnak? Est-ce que le gars va le prendre par la tête et il va le tosser? Je te dis. Ce gars-là va être un flop total dans le camp d'entraînement. Je suis certain de ça. Prédiction numéro 1.
Oui, déjà, ouais. Déjà en partant.
Charles Ludon ne fera pas le club. Va aller au balatage. Il n'y a aucun
club. Personne ne va réclamer.
Il va se retrouver avec le Rocket puis il va encore faire les manchettes parce que genre, je vois déjà le genre, il refuse de se présenter à Laval, demande une transaction. Chris, personne ne te veut, mané, tabarnak. Reviens-en, calice.
Il va voir ça, puis dans le Journal de Montréal, ils vont dire à quel point que le Canadien manque de respect envers un petit Québécois.
Ah oui, gang d'anti-Québécois, Charles Ludon. Même
ça
un donné,
me fait rire, ça.
J'ai vu un moment donné dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui a commenté, « Ben, tu iras les marquer tes 25 buts ailleurs. » Puis là, moi, j'ai écrit en commentaire.
25 buts?
Ouais, c'est ça que quelqu'un avait écrit, puis c'est une madame. Tu sais, fait que là, ben, je demande, « OK, dans quelle ligue? » Elle n'a jamais répondu.
Ben, c'est sûrement un compte russe, ça.
Non, mais j'ai eu beaucoup de likes, par exemple.
Dans quelle ligue? Dans quelle vie qui compte 25 buts? Anyway, Ludon, là.
Tabarnak, man. Peut-être dans le Pee-Wee quand il était jeune. Est-ce,
moi, je veux juste qu'il brûle le camp et qu'il soit super bon. Mais
ah, ça serait un avantage
s'il
pour
l'est
nous
pas,
autres.
Qu'est-ce que tu veux? Faut que le team
travaille le kid. Parce que c'est sûr que ça serait un plus. Mettons qu'il devient excellent et il fait 70 points cette année. Est-ce, on va tout être heureux de ça. Mais on est loin. La marche est haute en tabarnak.
Ouais. Et puis il y a bien du monde pour prendre sa place aussi en ce moment. Là.
Ah, ben oui,
beaucoup de jeunes qui poussent.
D'après moi, Poehling et Suzuki, ils sont plus hauts que lui dans la hiérarchie du Canadien.
Les deux sont très proches, mais on va en parler tantôt. On avait des questions d'ailleurs, JF, des Patreons. J'ai oublié de le dire, là, mais on va les lire tantôt. C'est parce que tout ce qu'on va. Ce qu'on se fait poser comme question, on va y répondre pendant le show. Fait,
ouais.
Je vais les lire, ça pas long. Mais juste pour revenir en fait sur résumer les départs. Donc, on a Tanti Niemi qui est parti, Jordy Benn, Nicolas Deslauriers et Andrew Shaw. Et ils sont arrivés avec le CH, Keith Kincaid, Ben Chariot, j'ai dit comme disons, et Nick Cousins.
Quand on regarde ça, Jeff, on est-tu là d'avoir un club qui ne s'est pas amélioré au cours de l'été? Dans le fond, là, si on résume ça rapidement.
Pour moi, en ce moment, je regarde.
Niemi, Kincaid, qui tu préfères?
Ben, je sais pas parce que j'ai pas assez vu jouer Kincaid, mais je vais dire Kincaid parce que Niemi faisait dur pas mal l'année passée.
C'est dur d'être pire.
C'est ça.
Ben puis Sharrett.
De ce que j'ai lu sur Chariot, je pense que Chariot va faire un meilleur job que Ben. Puis Delaurier, puis Shaw, Nick Cousins, je peux pas me prononcer, je l'ai pas vu assez jouer.
Ben,
mais
disons que Nick Cousins va peut-être le style de gars qui va remplacer Delaurier que Shaw, parce que Shaw joue sa deuxième ligne. Ouais. Fait que ce que ça veut dire, c'est que Andrew Shaw va probablement être remplacé par un jeune sur le top 6, qui va être à voir d'ici le camp d'entraînement.
J'espère que Poehling va faire le club.
Ah, oh, ça serait un
Poehling qui a présentement le plus grand ratio but par game de la Ligue nationale.
Mais comme à la fin de show, si tu me permets, JF, j'ai la recette pour que le Canadien fasse les séries.
À la fin de la journée, qu'on dit.
À la fin de la journée.
Mais ouais, on le fera tantôt. Mais juste nommer nos questions pour toujours bon, nommer nos Patreons aussi. Mathieu Bilodeau qui dit « Êtes-vous optimiste face à la saison du CH? Série ou pas série? Selon vous, combien de recrues feront leur entrée avec la formation? Et allez-vous regarder davantage le Rocket ou le CH? » Je ne regarde pas le Rocket personnellement. Là.
Non,
j'aimerais
aller,
ça y aller.
Je veux aller les nouvelles là-dessus.
Je veux y aller au Rocket cette année. Il faudrait qu'on ait fait un petit coverage de ça.
Ben, tu sais, on devrait aller vivre l'expérience au moins une fois. Je n'ai jamais été au centre. Ça s'appelle quoi la Place Belle.
La Place Belle. Ouais, faudrait y aller pour vrai.
Ben oui, on va aller checker ça.
On fera 2 heures de métro avec la lanceur.
Sacré.
Puis Alexandre Anger, qu'on remercie d'ailleurs, il a augmenté son don Patreon. Puis on n'a rien produit de l'été. Fait que c'est incroyable. Merci beaucoup, c'est grâce à toi que
très apprécié.
Je suis pas dans les dettes à chaque jour. Il dit « Bonsoir les gars, êtes-vous déçus du manque d'action chez le CH cet été comparé aux autres étés? Pensez-vous qu'il se passera quelque chose pendant le camp d'entraînement? Est-ce qu'on aura droit à une meilleure idée au niveau des recrues? Soit échanger un vétéran qu'on pense pouvoir remplacer, échanger un jeune qui aura prouvé sa valeur. » Ben ça, on verra bien le camp d'entraînement, qu'est-ce que ça va donner.
Oui, parce que là, dans le fond, c'est dur à évaluer là. Ta première question, dans le fond, c'est de savoir si
on est déçu. Puis en fait, ça va amener sur notre prochain point, JF. Je suis déçu, oui, parce que j'aurais aimé avoir du renfort pour le CH. C'est sûr que tu veux toujours avoir le gros joueur qui signe avec ton club. Mais je suis content que Bergevin a gardé son plan, qu'il n'a pas scrappé la jeunesse, qu'il n'a pas mis le club en danger pour aller chercher un contrat d'un an poubelle, que le gars va nous aider une saison puis qu'il va crisser son camp. Puis il y a eu l'offre hostile à Sébastien Aho, hostile en guillemets, là. Parlons-en de cette offre qui a fait couler beaucoup d'encre. As-tu des commentaires sur...
Oui, j'ai Francis Royal, on te salue. Il y a 2 semaines à peine, on était certain que le CH allait intégrer 1-3 jeunes. Là, la tendance semble aller vers la même line-up que l'an dernier. Vous en pensez quoi, jeunesse ou statu quo? Si tu nous permets, Francis, à la fin de l'épisode, on va justement parler des alignements puis des trios qui ont été formés pendant le camp. Fait que,
Moi, je suis full jeunesse, par exemple, mais si les jeunes ne sont pas prêts, ça donne rien des brûlés. Ça donne rien des...
Ben, c'est ça, il ne faut pas sauter des étapes. Puis dans ce cas-ci, dans le fond, écoute, l'affaire de... Quand tu me l'as annoncé que Canadiens ont fait un offre hostile, au début, j'y croyais pas. J'ai dit, ben là...
C'est des fake news.
C'est des fake news. Ah, Bergevin, il a fait exprès pour faire ma gueule au monde. Puis là, quand j'ai vu le contrat, qui est 5 ans, 8,6 ou quelque chose du genre... Là.
C'était quand même brillant comme contrat parce que le point caché du contrat, c'était les bonus, hein?
Oui, parce que dans le fond, au total, je te dirais que quasiment 50% du salaire du joueur vont être payés d'ici le 1er juillet 2020. Fait que Marc a eu les informations à l'interne de l'agent, qui est le même agent que Brandon Gallagher, pour dire qu'il y avait des problèmes qui se passaient au niveau financier avec la Caroline. Puis même que dans le fond, là, les infos commencent à couler. Il envoie le minimum de joueurs à l'étranger. Je pense qu'il minimise les dépenses quand il joue à l'extérieur, puis ça a l'air que les lunchs et des sandwichs aux œufs.
Fait que frette sur un pain blanc, ben un petit peu humide.
Puis c'est le club qui a le moins de contrats signés. Tu sais, je pense que tu as droit à 55 contrats au total. Ils en ont le minimum qui est de 23, puis ils n'ont rien d'autre.
OK.
Fait que, écoute, il a essayé. Ils ont ri de Bergevin, blablabla. Mais.
Oh, c'était sûr qu'on allait l'accoter. Puis oui, c'était quasiment sûr qu'il allait le faire, mais il aurait été épais de perdre un joueur comme lui.
C'est ça. Puis pourquoi, dans le fond, ils n'ont pas été capables de le signer avant ça? L'affaire qui a fait mal aux Hurricanes, puis que moi, dans le fond, je me dis, à suivre, c'est qu'ils ont donné un contrat de 5 ans à Aho.
Ouais.
Ça veut dire que dans 5 ans, il devient joueur autonome. Ça veut dire que les Hurricanes, leur plan, ils voulaient le signer à long terme, genre 8 ans. Puis Aho ne voulait pas parce que, dans le fond, comme je te disais tantôt, la tendance fait que les agents libres avec restrictions veulent avoir un contrat minimum parce qu'après ça, ils veulent péter le gros lot aussi comme des malades. Fait que ça, je sais qu'ils ne l'ont pas apprécié. Puis l'affaire qui ne me surprendrait pas du tout, voilà ma deuxième prédiction, c'est que je crois sincèrement que Sébastien Aho, quand il va devenir joueur autonome, il va sacrer le camp.
Je serais pas surpris. Je pense pas. Ben, ça va dépendre du CH, le team est rendu où, mais... Ça ne veut pas dire qu'il va revenir avec le Canadien.
Non, mais il va être agent libre et il va tester le marché, ça, c'est sûr et certain.
C'est sûr, moi aussi, qu'il va s'en aller de là.
Ouais.
Puis, tu sais, on aurait pu le signer à haut en mettant plus, mais là, c'est parce que tu veux sacrifier un choix de première ronde l'année prochaine. Puis ça...
Écoute, c'est un choix de première ronde l'année prochaine, mais pas juste ça, dans le fond. Là. C'est 4 choix de première ronde back-à-back.
C'est ça, là.
Tu sais, quand tu regardes ça là, comme faux, là, mettons qu'on suit le Canadien avec leurs 4 derniers choix de première ronde qu'ils ont eu, Cole Caulfield, Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling et puis Mikhail Sergachev.
Ouais.
Ça veut dire que tu aurais donné ces 4 joueurs-là pour signer un gars?
Non. Moi, j'aurais pas été prêt à faire ça.
Parce que aussi, ce qui arrive, ce que ce monde ne comprenne pas, c'est que c'est rendu une loterie. Fait qu'une équipe qui... mettons que le Canadien finit quasiment dernier, puis qu'à la loterie, genre, c'est eux autres qui gagnent, bien là, ils viennent de perdre peut-être la chance de repêcher un gars dans le top 3. Fait que c'est un esti de risque à prendre. Fait que c'est pas nécessairement logique. Puis si ça serait vraiment genre une bonne idée, ben crois-moi, il y aurait beaucoup plus d'offres hostiles aujourd'hui.
Il y a eu genre, c'est quoi, comme 7 offres hostiles dans les 15 dernières années, une affaire comme ça.
Oui, il y en a juste une qui était
acceptée. Une qui était acceptée, ouais. Fait que c'est un show de boucan aussi ou pas? Il a bien fait de l'essayer quand même, mais à cause des finances, il aurait pu être pogné au niveau financier. Là,
c'est ça, je pense pas que ça lui fait plaisir au propriétaire de faire un chèque puis de savoir qu'il faut qu'il paye de l'argent tout de suite.
Non, mais ça, puis je pense qu'il a bien fait d'essayer. Là. Les maths, c'était bonnes, ça n'a pas marché. OK, on passe à autre chose. Là.
Regarde, il a essayé de quoi? On peut pas le blâmer. Là.
On n'a rien perdu sur ce move-là.
Puis l'affaire qui était drôle, c'est quand ils ont annoncé que Aho resterait, ils ont fait une conférence téléphonée, puis Aho était en Finlande, et puis il n'a jamais répondu à l'appel.
Son téléphone était sur vibration.
Ouais, c'est comme il dit, oh, fuck off. Fait que c'est hilarant.
Voilà, donc c'était moi. En tout cas, moi, c'était mes commentaires sur l'affaire Sébastien Aho. Ça m'a diverti pendant une couple d'heures.
Oui, parce que dans le fond, le lendemain, il a annoncé comme quoi que OK, c'est terminé, mais on va attendre une semaine pour faire chier le Canadien. Ça, c'est de l'enfantillage, là, parce que dans le fond, il était comme gelé de 8,5 millions sur ma salariale, mais ça n'a pas empêché Bergevin de faire des moves. C'est sûr que quand on regarde ça, ils ont parlé comme quoi que Gardiner avait reçu une offre aussi du Canadien de 3 ans à 5,25, puis a signé pour moins cher à Caroline, encore eux autres. Puis Bergevin a essayé, ça n'a pas donné grand-chose, mais par contre, ça ne l'a pas empêché de faire des petits moves, puis il reste sur son plan, qui est son plan numéro un. T'sais, les bons joueurs, là, personne ne les échange, leurs bons joueurs.
Ouais, ouais.
Fait que la seule façon que tu peux savoir des bons joueurs,
c'est de les repêcher.
Et voilà.
Puis dans le cas de Gardiner, il a accepté moins cher, mais là, c'est encore un cas d'un joueur qui n'est pas capable de toffer la pression de Montréal parce que lui, il se faisait haïr là, avant. Là.
Écoute, c'était le Patrice Brisebois des Leafs.
Il a chié dans les coins.
Le pire, c'est que c'est vrai. Écoute, il y a un match à Toronto, apparemment, à chaque fois qu'il touchait à rondelle, il se faisait huer. Comme Brisebois, t'as sais-tu quand Gainé l'a défendu à un moment donné? Fait que c'était pareil. Puis à la fin de la saison, les fans innocents de Toronto ont blâmé Jake Gardiner pour l'élimination des Leafs.
Mais c'est ça le problème avec ces joueurs-là aussi. Puis le fait qu'ils veulent pas venir jouer dans un gros marché de hockey comme Montréal, c'est que les fans, c'est, ils vont t'aimer ou ils vont t'haïr, mais il faut que tu vives avec ça. Là.
Faut que tout dépend de
ça,
toi.
Ça, puis les hosties d'impôts là, aussi, qui est comme une excuse semi-cassée.
Ça, je pense que c'est un peu de la merde parce que les impôts, tu fais juste penser à John Tavares, ça l'a pas empêché de signer
en Canada. Mais en tout cas, Domi a été une bonne majorette pour le CH aussi. Là,
oui.
En disant à tout le monde, hey, non, vous n'avez pas de raison de ne pas venir ici. Puis,
Mais c'est ça parce que quand on est une équipe, mettons, quand l'équipe gagne, mais écoute, c'est la plus belle place pour jouer au hockey. Quand l'équipe perd, c'est difficile, mais tout dépend.
Parce que tout le monde est passionné, c'est tout le temps ou à peu près plein tout le temps là, au Centre Bell. Là.
C'est ça. Il n'y a jamais d'exception.
Voilà, donc c'était ça. Mais...
Oui, puis le nombre de recrues qui va faire le club, selon moi, je pense qu'il va en avoir juste un. Puis ça va être
Poehling. Ouais, moi aussi, je pense qu'il va.
Je pense pas qu'il va en avoir d'autres qui vont percer l'alignement.
À voir, ça dépend des blessés, on ne sait jamais. Là.
Entre autres.
Puis voilà. Mais il y a aussi l'affaire que les RFA, les joueurs autonomes, ça dépend qui est disponible sur le marché aussi. Puis ça se peut qu'il y en ait qui ne soient pas intéressants pour le CH. Fait que, va pas chercher n'importe qui pour aller chercher n'importe qui. Là, c'est...
Non, c'est ça. C'est comme un moment donné, même Bergevin parlait que dans les échanges, là, dans le fond, là, il dit j'aurais pas aller chercher des joueurs. Mais le prix demandé, c'était, mettons, Poehling, Suzuki, Romanov, un choix de première ronde, Kotkaniemi, genre, c'est comme... Écoute,
t'es sûr que dans 3-4 ans, on va faire comme... Si on les avait, on les a échangés comme...
Tu te souviens de John Leclerc?
Ouais, tu te souviens de Ryan McDonough?
Mais voilà. Bergevin ne fera jamais un move risqué de genre.
Il faut pas, puis...
Puis il y a Matt Duchesne aussi, qu'on pensait tous qu'il allait venir à Montréal.
Ouais, puis Matt Duchesne a dit qu'il a été très séduit par Bergevin et l'organisation, mais finalement, son choix était fait avec sa femme, puis sa famille.
Il préférait jouer à Nashville.
Fan de country.
Puis quand tu regardes ça, dans le fond, je regardais les stats de Matt Duchesne, là, il a fait autant de points que Max Domi, puis le gars va avoir un salaire de 9,5 millions par année.
Ouais.
Fait que, écoute, soyez heureux. On a un Matt Duchesne qui s'appelle Max Domi.
Pendant que Duchesne s'en va à Nashville, le Subban était parti.
Ah oui, ça avait été changé contre trois bouts de carton.
Ouais, mais tu sais, on l'avait un peu calé qu'il commencerait pas la saison à Nashville.
Ça faisait longtemps qu'il y avait des rumeurs.
Je m'attendais jamais à ce qu'il se ramasse au New Jersey, par exemple. Là.
Ah, ben là, il fait, mettons, j'ai dit la propagande. Là, mais
il fait la mascotte des Devils. Là.
Puis là, il s'est posté une photo de lui quand il avait, mettons, 5 ans avec un jersey de New Jersey sur lui, puis il dit « J'ai toujours pris pour vous autres. » Va chier,
comme
man.
Marcus Stroman. Ça m'aurait même pas surpris que son père fait « Ah, je pensais qu'il était tradé avec les Yankees, mais finalement, ouais, c'est les Mets. »
Malheureusement, tu sais, pour son père, mais Subban, il n'est pas comme lui. Son père, c'est un gars qui a de la classe, d'après ce que j'ai entendu. Puis ouais. Subban, c'est... écoute, il s'entraîne avec sa femme, puis pendant qu'il fait, du poids, sa femme vient le chatouiller, man. C'est comme tabarnak, man.
Faudrait qu'ils aient un poids d'en face après ça.
Tu sais, New Jersey, là, ils ont fait beaucoup de moves cet été. Ils ont été chercher
Ils ont un bon club, le New Jersey, qui s'en vient. Là. C'est...
Écoute, je sais pas c'est quoi les attentes là-bas, mais je pense que tout le monde
la
se
coupe,
dit...
La coupe, mon GF.
Écoute, ça, on va faire les séries avec le club qu'on a. On va voir si c'est le cas, mais là, Subban, genre, il va tellement faire à sa tête là-bas tout seul.
Ah, ça va être fou.
Ça va être l'enfer. Les revirements ne plus finir.
Il va avoir des cornes de son casque.
Taylor Hall avait une réputation de fêteur à Edmonton. Là, il est avec Subban, il est avec Wayne Simmonds. Man, Steve Wu-Tang Clan va ressusciter. Ça va être l'enfer. Excusez.
Wow. Ah, c'était notre petit aparté. C'était le Around the NHL, mettons, parce qu'on n'avait pas aujourd'hui de ça, Around the NHL. Fait que c'était des nouvelles importantes. Mais il y a aussi Phil Kessel qui est parti, puis ça a l'air que c'est parce qu'il se poignait avec...
Écoute, Malkin a déclaré cette semaine que si ce gars-là revenait au camp...
Lui, il revenait pas.
Il revenait pas. Fait que, écoute, ça, c'est une autre affaire. L'imbécile, le Mozart du hockey. Je sais plus quoi son nom, Chayka.
John Chayka.
Il va chercher Phil Kessel... Ce gars-là, il a fait genre au-dessus de 80 points l'année passée, ça fait 2 années de fil. Là, il va jouer pour un club qui n'avait aucun marqueur de 20 points, de 20 buts, avec le club. Fait que Kessel, là, attention aux Poolers, il va avoir une drop à ce minimum de 20 points. Puis en plus, c'est un gars qui travaille, je te dirais, comme un cavalier, avec un match sur 4. Fait que ça va être dégueulasse, ce type. Mais un gars qui croit beaucoup en lui, c'est Rick Tocchet qui l'a coaché avec les Penguins.
Ouais.
Puis Alex Galchenyuk qui pense qu'il va... taper le gros lot, il joue sa dernière année de contrat avec les Pingouins, puis ce gars-là, il pense qu'il va faire 100 points. Je pense que tous les fans de Galchenyuk qui pensent qu'il allait faire 100 points, pensent qu'il va faire 100 points là. Je vais faire exprès, JF, je vais le mettre dans des cases du pool, puis je vais tout regarder ceux qui l'ont choisi.
Dans le fond, tu vas nous donner des conseils, mais tu vas mettre des pognes dans le pool que tu diras pas.
Ah, c'est sûr qu'il va avoir des attrape-ours, là. des pièges à ours, excuse. Des attrape-ours, ça se dit pas.
Non, c'est plus un attrape-nigo, mais...
Ouais.
Chucky est arrivé au camp avec 2 bâtons, puis Malkin a fait « Hey, c'est bien hot, ce bâton-là », puis finalement, Chucky a 1 bâton maintenant.
Pour vrai?
Ouais, il est parti avec son bâton.
Ah, c'est chien, dans le fond, il disait « Ah, il m'a coûté 100 000 ».
Ouais. Hey, ça pourrait être payé, il pourrait être une montre à 300 000 pour aller jouer au hockey.
Là. Écoute, parlant de montre, là, je sais pas si tu l'as vu, mais quand il y a eu l'année du lockout, la première saison de Brandon Gallagher, il portait le numéro 73, puis Bergevin fait un mot pour aller chercher Michael Ryder. Écoutez, Michael Ryder, il a dit, tu me donnes-tu le numéro 73? Je vais t'acheter une Rolex.
Ouais.
Puis, au cours de l'été, il y a eu une entrevue avec Gallagher, puis il n'a jamais eu sa montre, puis il la trouve pas drôle, mais pas
pantoute. Il a son numéro.
Est-ce trop de cul de Ryder, man?
C'est dégueulasse.
Chris, le gars, il fait des millions. Achète la montre, Chris, aux jeunes qui te donnent son numéro de téléphone. C'est pas son numéro de téléphone, mais son numéro.
Téléphone.
Tu sais, come on, man. Tu vois que des trous de cul, il y en a partout.
Ah, surtout quand t'es riche.
Ouais.
Hey, on s'en va de JF maintenant. Au tournoi de golf du Canadien.
Ah.
En fait, c'était le tournoi de golf de...
Laval sur le lac.
Mais c'est-tu un joueur qui l'organisait, c'est-tu?
Non, c'est le tournoi de golf officiel du Canadien.
C'est ça, okay, ouais.
C'est ça, parce que là, une semaine, juste pour pas mêler le monde, il y a eu le tournoi de golf de Jonathan Drouin.
OK, c'est ça, je me mélange.
Le vrai tournoi de golf. C'est la rentrée scolaire pour les Canadiens.
C'est là que Claude arrive en short, en carte, avec les jambes bien blanches.
C'est ça, puis Marc, habituellement, il monte ses pailles, mais là, je pense qu'il faisait un petit peu plus frais lundi. Il y avait tous des cotons, pas des cotons ouettés, mais genre, tu sais, des vestes. Là,
une petite veste à manches
longues. Avec un zip.
Fait qu'on on a des extraits, on a 4 extraits de Claude Julien et 5 de Bergevin. Fait que, ben, on repart à la tradition de JF cette saison et on écoute des entraîneurs avec pas de souffle parler dans un franglais très excellent. Donc, on commence avec petit Claude, JF. Première question, on dit, est-ce que l'équipe peut encore s'améliorer malgré le fait que plusieurs joueurs ont connu leur meilleure saison l'année passée? On écoute Claude.
On a beaucoup plus d'expérience, surtout avec ces jeunes-là. On a des parties de notre jeu qu'on veut améliorer, comme notre jeu de puissance d'ailleurs. On veut que soit mieux que ça l'était l'an passé. J'ai vu une amélioration à la fin de l'année, surtout dans le dernier mois, où les joueurs ont commencé, à avoir un peu plus de confort dans leur choix de jeu, etc. On espère être capable de continuer sur cette voie-là. Il n'y a aucune raison de penser, parce qu'on est jeune, qu'on n'a pas l'occasion de s'améliorer. L'expérience, ça vaut pour beaucoup dans une saison de hockey. Alors, c'est ce qu'on s'attend de notre équipe.
Qu'est-ce qu'il y a, Mike Champlain? Il y a la petite musique qui part, puis il y a des
temps. Parce au Saint-Denis, c'est rendu à Laval sur le lac.
C'est boire.
C'est le party, hein?
Mais ouais, comme il dit, on a beaucoup de jeunes joueurs, fait que oui, c'est normal qu'ils connaissent leur meilleure saison, puis... Ça ne veut pas dire que tu as ta meilleure saison, pour ça, tu vas te descendre.
Ben, c'est sûr, leur potentiel, ça ne veut pas dire que ça arrête là. Il y a encore de la place à l'amélioration. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est Jonathan Drouin. Ben oui. On s'attend qu'il fasse plus.
Si tu as un joueur qui a une saison de 70 points, puis c'est sa meilleure saison, puis qui fait 68 l'année prochaine, c'est une bonne saison pareille.
Ben oui.
C'est ça l'affaire. Il
faut faire attention. Je pense pas que, écoute, je le souhaite pas, mais je pense pas que Domi va faire une saison de 40 points. T'sais.
Non, je ne penserais pas.
À moins d'une catastrophe ou une blessure, genre.
Ben, qu'il se casse une dent, quelque chose. Deuxième extrait de Claude Julien. Sont où les changements dont tu parlais au tournoi de golf de Jonathan Drouin?
Juste pour faire une mise en situation, puis je sais que tu m'en avais parlé un peu, là. Il y a eu, tu sais, Claude Julien a parlé à des journalistes, puis il a dit, tu sais, il n'y a aucune décision qui a été prise encore, mais il y a encore beaucoup de discussions présentement, puis on va voir au camp la semaine prochaine. Fait que le monde, ce qu'ils ont compris, c'est, OK, il y a des deals sur le bord de se faire d'ici une semaine. Fait que là, ils ont reposé la question, sont où tes changements, vieux Chris?
Non, j'ai peut-être, j'ai fait allusion à ça, pas pour dire qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, mais on ne sait jamais. Tu sais, ton gérant travaille à tous les jours pour améliorer ton équipe. Il y a des choses qui se passent. Tu reçois des appels, il y a des équipes qui ont des problèmes, disons, avec le cap salarial, etc. Alors, tu sais, de me prononcer... Dans le tournoi à Jonathan, puis arriver ici aujourd'hui, c'est totalement différent. Je voulais pas mettre, mon pied dans la bouche, si tu veux, puis dire quelque chose qui était pas qui était contraire à ce que j'avais dit la semaine avant.
Je voulais pas mettre mon pied dans ma bouche.
C'est quoi l'expression quand tu dis quoi, puis t'es mal, t'es dans mal bouche, côté, je veux dire...
J'ai été mal cité, mais, ouais, mais je voulais pas mettre mon pied dans... Mais ça, c'est la manière qu'il l'a prononcé. J'ai pas envie de me mettre mon pied dans ma bouche, là.
Déjà que je pense qu'il est pas assez flexible pour ça.
Claude.
Ça serait malade.
Tu sais, le monde, il y a des journalistes qui demandent le départ de Bergevin. Sinon, il va sauter en premier, ça va être Claude Julien, je pense. Là. Si l'équipe ne fait pas bien cette année.
La logique fait que le coach
beaucoup
part
plus
toujours avant Bergevin. Mais...
Puis le monde qui sont comme, les journalistes, là, on devrait renvoyer Bergevin. C'est quand même Molson a un crisse d'imbécile à ce stade-ci de renvoyer Bergevin. Là.
Surtout que là, t'es en comme un...
Voyons, ça peut pas de sens.
En guillemets, reconstruction, si tu veux.
Même s'ils veulent pas le dire. Là.
Ben, c'est parce qu'à Montréal, c'est un marché différent. T'as pas le droit de faire une reconstruction parce que t'as encore une majorité de personnes qui sont imbéciles, qui n'acceptent pas que le Canadien ne fasse pas les séries à tous les ans pour repêcher mieux des meilleurs joueurs puis espérer être une équipe gagnante d'ici les 20 prochaines années.
Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux de partir sur un 2-3 ans, d'être moins bon puis de repêcher des vraiment bons jeunes joueurs ou d'être 15 ans à faire une run, deux runs de série peut-être? Là.
C'est ça, comme c'est comme deux faire rondes, sur place. Là,
c'est ça. Fait que,
non, voilà. C'est fini. On n'est plus dans le temps de gainer. Là.
Mais ça s'en vient. Là. La Coupe, pas cette année, pas l'année prochaine. Peut-être même pas l'autre après, mais 2023, là, on est pas...
C'est ça, mais Monson s'est mouillé. Puis il a dit on va avoir un excellent club d'ici 3-8 ans.
C'est... Bon, 8 ans, c'est loin.
Je sais pas où ce qu'il a acheté son 8 ans. Là, mais...
3, je suis d'accord.
Il aurait pu dire 3 pour fermer sa gueule, mais d'après moi, il pensait au prix qu'il allait vendre ses cacahuètes.
T'es un Irlandais, ça.
Ah, c'est vrai.
Troisième extrait de Claude Julien. Il a demandé « Aimes-tu les changements
qui ont été faits, excuse-moi, il oublie.
Il manquait un mot dans ma feuille, Jeff. Est-ce que tu aimes les changements que la direction a fait au cours de l'été pour le Canadien?
Oui, c'était la question à ce moment-là.
Oui, écoute, dans le cas des joueurs qu'on est allé chercher, puis les joueurs qui ont l'occasion de se démontrer dans le camp d'entraînement, on a de la bonne compétition. Je sais qu'à plusieurs années, les équipes, les entraîneurs disent ces choses-là, mais quand tu regardes à l'attaque, là, on a beaucoup de joueurs qui peuvent faire partie, qui peuvent jouer dans la Ligue nationale, mais il va falloir qu'on prenne des décisions difficiles en cours de route. Puis ces choses-là, j'aime ça. J'aime mieux ça que pas avoir de décisions à faire. On a, tu sais, Ben Sherratt qu'on a signé comme défenseur gauche. Gros gabarit, solide, bon défensivement, bouge bien la rondelle offensivement. Alors, tu sais, je pense qu'on a une bonne stabilité là avec ce joueur-là qui va nous donner une différente dimension. On a perdu Ben comme de raison. Sherrod étant un joueur un peu plus physique encore que Ben, ça nous donne quand même cet élément-là. Puis je pense que de ce côté-là, on l'avait besoin.
Hey, c'est feutré son entrevue, le petit piano derrière.
Ah ouais, c'est comme c'est. Ah, c'est drôle.
Sherrod. Voilà,
le bon Claude.
Le bon Claude, toujours avec un petit peu de sauce Saint-Hubert dans le fond de la gorge qui colle.
Ah, et voilà.
Dernière question à Claude. As-tu trop de jeunes joueurs dans l'alignement? C'est quoi cette question-là?
Écoute.
On voit ce qu'il y a à dire.
C'est pas toutes les lumières, les journalistes.
Ben, toi, tu es bien placé pour.
Stéphane Leroux, il parlait.
Pour reconnaître que je le sais, c'était junior, là, mais je me suis rendu en finale avec 17 recrues une année. C'est pas.
Sept,
je sais
qu'à
ce niveau-ci, l'expérience est importante. Moi aussi, c'est un jeune joueur qui fait le travail. Puis tu vois, les jeunes joueurs que, l'an passé qui ont connu des bonnes saisons, qui ont été des joueurs quand même, quand je dis d'impact, on est certaines niveaux d'impact dans leurs équipes, pourquoi pas. Puis ces jeunes-là, s'il faut, s'ils méritent de le faire, c'est là qu'il faut faire de la place. Mais la décision, elle ne se fait pas aujourd'hui. Elle va se faire probablement avant que la saison régulière commence. Mais j'ai aucun problème avec ces choses-là. En autant qu'on croit qu'on peut survivre puis s'améliorer avec ces joueurs-là. Je vais être 100% derrière la décision.
En autant qu'on puisse survivre.
Oui, puis le gars qui a posé la question, c'est le pédophile, c'est Stéphane. Ah non, c'est vrai, il a été... excusez. Rewind,
ouais,
c'est
non,
Stéphane Leroux.
Fais pas des fausses accusations de même.
Non, c'est ça, je m'avais pas. C'est qui l'a accusé de ça, c'est-tu, ben, le de manger de merde, le malade, là?
Ah, je me souviens plus.
En tout cas, un gars de Québec.
Ah, ouais, en tout cas, on parlera pas de ça, on va se mettre dans la merde. On va aller à Marc maintenant, le bon Marc qui sort de sa retraite d'été. Il était tranquille, c'était après l'offre hostile, on n'a pas entendu parler de Marc.
Non, quelques petits mots par-ci par-là.
Non, il était en vacances, là. Je ne sais pas ce qu'il faisait.
Puis après ça, je te dirais que dans la dernière semaine, il a comme donné des entrevues exclusives à toutes les chaînes de radio, de télévision.
Ah, il s'est mouillé, là.
Oh, oui, il était prêt. La seule affaire qu'il n'a pas accepté, c'était l'invitation à Guillaume Lepage.
Pour vrai?
Ben non, mais il n'est pas encore.
Ah, c'est pas revenu encore. Je
partais pas de rumeur.
Mais en tout cas, peut-être qu'il sera là, mais bon. Il a déjà été à ton enfant, anyway.
L'année passée, il l'était, fait que je vois pas pourquoi il irait pas encore cette année.
Fait qu'on y va avec Bergevin, cinq questions. Bergevin, as-tu commencé les négociations avec Max Domi?
Il lui reste une année de contrat, après ça, il devient un RFA with Heartbreaks.
Est-ce qu'il y a des discussions qui ont commencé? Est-ce que c'est pas une volonté de le ramener pour longtemps?
Je n'ai pas sa place publique avec les négociations, mais il y a eu des pourparlers au début de l'été, oui.
C'est quand même... Dans ta carrière récemment, un de tes bons coups d'avoir été chercher Max Domi. Il y a eu une bonne saison pour vous autres. Aimerais-tu le garder à long terme, indépendamment que tu négocies pas sur la place publique?
C'est certain que oui. Puis je pense que Martin, si on recule une année, je suis pas certain que si tu parles de l'opinion publique, on pensait que c'était un bon coup d'avoir Max Domi ici à Montréal. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos partisans sont fiers de Max Domi.
Je suis même sûr que ça marche avec les RFA cet été. C'est beaucoup mieux s'organiser que ça soit réglé avant la fin de la prochaine saison.
Il y a une différence entre le Max Domi et les RFA en ce moment. Tu es au courant de ça, right?
Ouais.
C'est quoi la différence? C'est parce que Max, il y a des Arbright. Ça veut dire que son contrat, il va falloir qu'il se règle.
Okay.
Ces joueurs-là, c'est des RFA qui n'ont pas d'Arbright, ils ne peuvent pas en arbitrage. Fait qu'il n'y a pas de solution qui vont se faire. C'est certain qu'on aimerait ça le régler, mais tout va se faire en temps. Puis ça prend toujours les deux parties pour s'entendre, faire une entente. Alors, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On va s'organiser pour avoir Max Domi à long terme à Montréal.
C'était qui le journaliste?
Je sais pas c'est qui, j'ai pas connu sa voix.
C'était le school, wow!
Mais c'est parce que dans le fond, en plus, il l'a dit au départ. C'est un Arfic, Arb Rights. Arb, c'est pour arbitrage.
Ouais, mais tu sais, il parle dans le jargon, le bon Marc, là, mais ouais.
Le gars, sûrement qu'il se pensait brillant, tu sais, OK, je vais essayer de parler avec l'actualité qui se passe présentement avec les RFA, Max Domi.
Mais c'est malade, ça. Tu sais qu'il y a une différence entre les RFA et Domi, hein? Ouais.
C'est quoi?
C'est quoi la différence?
Là, t'es comme pouf! Mais quand le DG te pose une question, t'es mort. Mais le dernier qui s'est arrivé, que je me souviens très bien, c'est Philippe Quentin.
C'est-tu qui est arrogant des fois, Bergevin? Mais des fois, il a raison d'être arrogant quand c'est des détails de même.
Ils sont caves, des fois, les journalistes.
Oh, mais c'est leur job en plus de savoir ces affaires-là.
Mais oui, c'est important, Chris.
Tu sais, souvent, je vais défendre les journalistes de poser des questions stupides parce qu'il faut qu'ils informent le monde qui sont moins
c'est
au courant.
Ça, t'sais.
Mais sacrément, quand t'es pour poser une question technique comme sur RFA, connais ton domaine. Tu connais ton dossier, en fait, là, mieux que
ben
ça.
Oui.
Là,
comme avait dit Jacques Martin un moment donné, « Do your homework ».
Ouais, c'est ça. Là.
Il avait dit ça à une femme. Le pire, c'est que c'est vrai.
Hey, non, mais,
c'était une journaliste de TSN 690.
Ça, c'était écœurant, par exemple. Tu sais, il y a une différence, hein? Ouais, c'est quoi? Femme d'ailleurs.
C'est ça, très ça.
Question numéro 2. Ressens-tu la pression pour la nouvelle saison?
Non. Moi, je gère ma pression au quotidien. Puis ça, c'est avec l'équipe, bâtir l'équipe, non seulement à court terme, mais à long terme. Alors, faire une transaction ou faire quelque chose une année pour amener quelque chose qui va nous faire du mal dans les années suivantes, je ne suis pas prêt à le faire. C'est certain que quand tu fais une transaction ou un agent libre, il y a toujours des risques. C'est comme gestionnaire, moi, je gère les risques, puis les rewards, puis je vais continuer risques. Dans la même direction avec ça.
Moi, je gère les risques puis les rewards.
Ouais.
Fait que Marc, non, est jamais stressé, lui, ça lui dérange pas. De toute façon, il passe la frustration en poussant de la fonte, comme dirait M. Pinchot.
C'est ça, puis comme il avait dit, Marc, il dit que c'est un gars qui a la peau épaisse.
Ouais.
Fait que, écoute, si t'es DG, là, puis tu choques comme gardener, là,
si fais
t'as pas l'affaire, là.
Si tu te fais repêcher, puis tu déboules les marches en te faisant repêcher, puis t'es encore dans la Ligue nationale, après tout ce temps-là, t'as la peau solide, là.
Et voilà, ça a été dit.
Question numéro 3. Penses-tu que ton équipe est bâtie pour faire les séries cette année? T'as-tu un playoff team, Marc? Parce que c'est bon de poser des questions aux semaines anglais pour qu'ils comprennent. Là.
Écoute, Martin, but, c'est de faire les séries. Mais en ce moment, comme à toutes les années, avec la parité dans la Ligue nationale, il y a peut-être une douzaine d'équipes qui vont se battre pour faire les séries, comme à toutes les années. Puis on fait partie de ce groupe-là. Puis j'espère, avec ce qu'on a appris l'an passé, avec les 3 points qui nous manquaient pour faire les séries, la motivation puis l'engagement que les joueurs ont durant l'été puis à la fin de la saison avec nos exit meetings, je crois qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis l'avenir du Canadien, pas juste pour l'année qui s'en vient, pour les prochaines années, est vraiment bonne.
Il a raison.
Je salue Antoine Sty qui nous a tweeté pour dire qu'il n'était pas là, mais qui nous souhaite une bonne saison.
Ah, calisse, Antoine.
Antoine, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent et qui suivent un peu tous les projets de Young et nos affaires, on va faire une jasette après la soirée du podcast.
Et voilà, t'as encore du temps, Antoine Sty.
Mais donc, on va soit nous écouter en podcast, parce qu'on est un podcast, on n'est pas... on n'a rien collé aujourd'hui, c'est comme fait un petit peu improvisé, on est parti. Puis coucou, on est là, on revient bien pour la saison, donc voilà. Excel numéro 4 de Marc Bergevin. Est-ce que l'équipe peut encore progresser malgré le fait que plusieurs joueurs ont connu la meilleure saison de l'année passée? Encore cette question-là?
Oui, le fond, ils ont comme posé la question à Claude.
Il y avait genre un pad de questions, puis ils ont posé une question ou deux, c'est ça?
Quasiment.
On va voir ce qu'il a à dire, lui.
Bon, Martin, une bonne question. Puis ça aussi, nous, on a regardé ça à l'interne. Puis l'an passé, à travers la Ligue nationale, à cause des règlements qui ont changé, marquer des points à la hausse. Alors, il y a beaucoup de joueurs, pas juste à Montréal, qui ont eu des années au-dessus du passé qu'il y avait. Alors, c'est une des raisons. On n'a pas une équipe qui est vieille, on a une équipe qui est relativement jeune. J'ai confiance en que les joueurs qui ont des très bonnes saisons vont continuer. Et aussi, ceux qui, nos jeunes qui poussent, un exemple, KK, encore, va s'améliorer. On a des Lucky, des Army, je crois qu'encore, ils vont en donner encore plus. Alors, dans l'ensemble, je vois pas ça comme un problème « moving forward
».« Moving forward ». Il cherche le mot avec « moving forward ». Que le seul qu'il faut utiliser, c'est les initiales en anglais. Parce que sinon, ça sort, ça marche.
Ça sonne bizarre.
Ça sort pas, sinon, en tout cas, des mauvais gags. dernière question de Marc Bergevin. Ressens-tu la pression pour cette saison, part 2?
Oui, parce que le journaliste, naturellement, n'écoutait pas au début, fait qu'il a reposé la question.
Fait qu'il a répondu une autre fois.
Ouais.
Écoute.
Tu sais, l'an passé, on s'attendait à rien.
Je compte. T'as raison. Mais moi, comme DG, comme gestionnaire.
Directeur général.
Mes attentes de l'an passé étaient plus élevées que ceux de vous. Alors, tout le monde disait, c'est un des pires équipes de la nationale. Alors, on a fait
un des pires équipes.
Puis, on va continuer là-dessus. Puis, je pense que, encore là, je le mentionne, l'avenir du Canadien, pas seulement cette année, mais pour les années à venir, est vraiment bonne. Un, les jeunes. On s'entend que notre noyau de jeunes est parmi les experts. Au top, whatever, dans le national. On est des bons.
Sauf Martin Leclerc.
Puis aussi, du côté masse salariale, que c'est un atout. Il y a des équipes aujourd'hui qui donnent des choix de première ronde, qui donnent des jeunes
Toronto.
Pour acheter de la masse salariale. On a ça, nous. Alors, pas seulement cette année, pour les années à venir. Fait que l'organisation, en général, est vraiment en une good shape.
Si, ouais, Marc.
Encore,
elle est vraiment en good shape.
Good shape, est-ce-t-il.
Ça va, Marc?
Marc, écoute, je vais dire.
Toujours des classiques.
Ah.
Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe.
Tu vois qu'il reste quand même sur son... Sur son tout le temps. Il n'a pas changé.
Ouais, sa cassette.
Il regarde pour améliorer l'équipe. toujours beau de réchauffer l'iPad puis le soundboard pour la saison.
Retrouver les audios.
Qui s'en vient vraiment comme ça. Voilà, donc c'est ça. Et c'était ça.
Et voilà, la section audio.
Marc et Claude ont quand même roulé leur bonne vieille cassette.
Tu répètes toujours la même cassette.
C'est bon, ça, là, il est prêt aussi pour la saison. Voilà.
C'est ça, puis tu sais, les gars arrivent là, sont confiants, mais les journalistes, le lendemain, quand ils ont sorti, mettons, les reportages, ouais, ouais. Écoute, surtout au 5 à 7, avec le Chris de Yannick Bouchard, là, c'était « Ah, oh, si on fait pas une série, là, c'est-tu la dernière saison de Marc Bergevin? Est-ce que Claude Julien va sauter? Blablabla. » Asti, c'était
l'enfer. C'est comme un débat inutile un peu avant que la saison commence. Là.
Mais là, c'est parce que dans le fond, c'est comme si le Canadien n'avait pas le droit de ne pas faire les séries encore cette année parce que ça va faire 4 en 5 ans. Puis la dernière fois que c'est arrivé, c'était dans les années noires des années 2000 avec Pinot.
Pinot. Ouais. Je ne rappelle-moi pas cette période sombre du Canadien.
Et voilà. Fait que là, c'est pour ça que le monde en chienne. Mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que versus aujourd'hui.
C'est pas pareil,
on
la Ligue a
jamais
changé.
Eu autant de bons jeunes banques
on
d'espoir
a un farm club
incroyable.
Qui est écœurant, là. C'est
ben oui,
tous les jeunes qui s'en viennent, mais que ces jeunes-là soient tous dans le club, ça va être différent pas mal. Là.
Ben oui, puis quand ils vont commencer à atteindre leur... Tu sais, dans le fond, t'as des jeunes qui vont s'ajouter, puis pendant ce temps-là, t'en as d'autres qui vont commencer à progresser encore. Fait
ouais,
que
ouais.
À chaque année, ils vont toujours avoir de quoi de plus. Fait qu'on va s'améliorer d'année en année avec les jeunes qu'on a, puis qu'ils ne coûteront pas les yeux de la tête non plus au départ.
Imagine que le Kanyemi s'y reprend un autre 14 à 20 livres l'année prochaine. Là.
Ah, si, moi, si je serais lui, je ferais juste, genre, je me raserais les cheveux puis je ferais genre un pinch qu'à la Stone Cold Steve Austin.
Puis là, tu le vois plus jamais sourire.
Il est rendu du côté obscur. Il vend aussi du.
C'est un heel. C'est rendu un méchant.
C'est ça, et c'est quoi qu'il vendrait, genre, l'affaire de Breaking Bad, là.
Ah, il vend du Crystal Meth. Puis...
ouais.
Bon, hey, Jeff, dans la section, avant de terminer ce podcast de LSDP Express pour aujourd'hui. Les trios possibles pour le début de la saison. Fait que là, on a fait un petit graphique très dégueulasse sur Photoshop en 5 minutes pour appuyer nos dires, mais on va le mettre comme ça. Donc, voici le line-up qu'on propose, en fait, qui devrait probablement ressembler.
Ça, c'est si on suit la logique.
On suit la logique en ce moment. Donc, première ligne, on aurait Tatar, Dano et Gallagher. Tatar.
Oui! C'est vrai, j'avais oublié qu'on avait ça.
Bien important, toujours, d'être à point sur Tatar. En fait, pas grand-chose à dire cette ligne-là. Une ligne excellente l'année passée.
Ils ont super bien fait. Fait que
formule gagnante.
Je briserais pas ça du tout. Là.
Deuxième ligne, Drouin, Domi au centre avec Paul Byron. L'impression que Byron pourrait se faire échanger, moi.
Ça peut être possible
parce que c'est une bonne
monnaie. Ouais.
C'est une bonne monnaie d'échange, Byron.
C'est un marqueur de 20 buts. Ils ont chacun leur valeur. C'est un travaillant. Il est très bon sur l'accélération. T'sais, ça prend un gars pour remplacer Andrew Shaw sur le top 6.
C'est ça.
La logique fait que ça devrait être Byron. Mais quand tu penses à ça, là, Byron, là, il a jamais fait plus que 43 points dans sa carrière. C'est pas un gars de top 6. Si tu veux vraiment avoir une équipe élite, tu peux pas avoir un gars comme Paul Byron sur le top 6.
On en reparlera après là, pour nos présents, nous autres, mais troisième ligne, Lekkonen, Kotkaniemi et Armia.
La finish line.
La finish line. Et quatrième ligne, Cousins, Thompson et Ward.
Ouais, fait que, écoute, pour un bottom 6, je trouve que ça a de l'allure avec les éléments qu'on a. Puis en over, on aurait Udon, Peeling, Weiss et Pekka.
Ouais.
Fait que là, c'est ça qu'on va voir dans le fond, comment ça va se passer dans le camp. C'est qui va faire le club, qui va faire partie de l'alignement partante au match d'ouverture, en fait, le 3 octobre contre la Canadienne.
J'ai hâte de voir parce que j'ai l'impression que Peeling, s'il fait bien encore, parce qu'il s'est entraîné fort, c'était le Peeling.
Écoute.
J'ai les suivi un peu ses médias sociaux, puis il s'est entraîné solide. Là. Fait qu'il... Il a l'air motivé.
Je vais pouvoir te dire justement tantôt, une fois qu'on a fait le tour, là, avec qui jouait à la pratique.
Mais tu vois, je regarde ça, là, la ligne, puis je ferai des petites modifications.
Ah, ça, c'est sûr et certain.
Moi, j'enlèverais Domi au centre, je le mettrais à l'aile, puis je montrerais 4 cas à la deuxième.
Mais tu vois, là-dessus, Jeff, on est du même avis parce que, écoute, il a fait quoi, 34 points contre Kanyemi, n'est
pas
passé quelque chose de même.
Pas marqué une fois à l'étranger.
Un des éléments qui fait partie de ma recette pour que le Canadien fasse ses séries, c'est que. Kotkaniemi, imagine s'il est capable d'aller faire 50 points au plus dans sa saison. On s'entend-tu que ça va changer la dynamique de l'équipe, ça?
Ben oui. Mais il a fait combien, t'as dit? 34 l'année passée?
Il fait 34 points. Fait que, mettons, c'est 20
points.
C'est une
recrue de 18 ans, on s'entend, là aussi. C'est, il a pas du talent.
Écoute, à titre d'exemple, mettons, là, je compare pas le joueur à ça, là. Il y a eu Mathias Brunet qui a fait une comparaison avec Sean Moynihan des Flames de Calgary, okay. Qui a fait après le même nombre de points que Kotkaniemi sa première saison. Puis à sa deuxième, il a fait 64 points. Puis après ça, c'est devenu genre le centre numéro un du club. Fait que, écoute, si Kotkaniemi fait 50 points et plus, je pense que c'est une des choses qui va nous permettre à faire les séries cette année. Mais ça reste à voir. Il a pris du poids, c'est encourageant. J'ai hâte de le voir en action.
Oui, ben, il a aussi déclaré qu'il fallait qu'il soit meilleur cette année. Il n'a pas aimé sa saison l'année passée. Il dit qu'il fallait qu'il s'implique plus. Il fallait qu'il soit plus selfish un peu. De...
Ben, c'est ça, parce que dans le fond, il cherchait toujours quelqu'un pour faire la passe. Ben, il faudrait qu'il tire un peu plus. Pis...
parce qu'il est bon pour scorer aussi. Là. Il a une bonne shot. Là.
Pis, dans le fond, là, sa zone de confort, là, j'ai lu un rapport dans The Athletic de Marc Dumont que je salue.
Toi, Jeff, tu payes pour ça les médias.
Écoute, j'ai un deal pour la fête du travail. Je paye 23$ pour l'anneau complet.
Ça vaut-tu la peine? Parce que c'est un blog qui est payant The Athletic avec des journalistes sportifs qui ont l'air de faire des plus gros topos. Là.
Écoute, mettons quand tu lis le journal, tu vas avoir une page, tu as un article. Ouais, des fois, tu as deux articles dans la même page. Le gars a fait un rapport sur la saison de Kotkaniemi. Puis écoute, dans le iPad, mettons, ça serait en page, il y aurait facilement 5 pages.
Ah ouais, quand même.
En plus, il y avait des vidéos pour expliquer des jeux que lui disait, puis des graphiques pour parler des stats.
OK, ben, ça vaut la peine d'avoir le pays quand t'es un passionné de hockey pour voir plus d'infos de qualité.
C'est ça. Là, c'est là que j'ai découvert que la zone de confort de Kotkaniemi pour tirer au filet, c'est dans le fond, quand t'es devant le goaler, là, c'est la cercle des mises en jeu du côté droit du filet. C'est là qu'il shotait, puis qu'il a souvent scoré. Puis il gagne souvent ses batailles à 1 contre 1. Puis imagine, il n'était pas gros, là. Puis son premier chiffre qu'il a fait l'année passée, moi, je m'en souvenais même pas, c'était contre John Tavares au match contre les Leafs de Toronto.
Ouais.
Puis les Leafs ont resté dans leur zone pendant tout le chiffre de Kotkaniemi parce que Babcock, puis qui pensait genre... Chris, on va schooler le jeune. Mais finalement, Chris, il n'a même pas été capable de sortir de leur zone. C'est surprenant pour un gars. Puis on s'entend que tu as 18 ans. Là, tu première présence dans la ligue. C'est clair qu'il avait fait pipi dans ses culottes un petit peu. Là. Bravo. Ouais. Bravo. Fait que je le souhaite de tout mon cœur qu'il fasse la deuxième ligne. Puis écoute, le seul bémol, je te dirais, avec Drouin et Domi, c'est que ces trois joueurs qui aiment contrôler la rondelle, c'est comme des playmakers, si on veut.
Ouais, ouais.
Kotkaniemi, c'est le même type de joueur aussi. Fait que si ça arrive, va falloir qu'un gars comme Drouin, Domi et Kotkaniemi n'aient pas peur de shotter. Il faut qu'ils se comprennent. Fait qu'on va voir si au cours de la saison ça va se faire ou pas, mais je serais pour ça.
Drouin, c'en est un qu'il faut qu'il ait une bonne saison parce que lui, il peut être sur le siège éjectable après ça s'il connaît pas de succès. Là, parce
ça
que...
fait partie d'un autre de mes éléments de recette pour faire les séries. Écoute, ce que j'aime de Drouin et JF, c'est qu'il a passé l'été à faire du surtemps. C'est comme s'il était allé à l'école.
Il s'est entraîné avec...
Dominique Ducharme.
Ducharme, voilà.
Il a fait beaucoup aussi de séances vidéo pour comprendre ce qu'il faisait de bien puis comprendre ce qu'il faisait de moins bien. L'affaire avec Drouin, c'est que ce gars-là, dans le fond, toute sa carrière, avant d'arriver dans la Ligue nationale, il a toujours dominé sans nécessairement avoir à changer son style de jeu. Puis je pense que quand il est allé à Tampa Bay, il était super bien entouré, mais je crois pas qu'ils ont été bien enseignés. Là, il est venu à Montréal, puis tout en partant, genre, on l'a mis sur un piédestal centre du Canadien. Ça n'a pas été facile pour lui.
Parce qu'on n'avait pas, en plus, là, des de centres.
Mais c'est ça, fait qu'en partant, ça, il met une pression supplémentaire, puis c'est pas évident. Il avait 22 ans dans ce temps-là. Là, l'année passée, on l'a mis à l'aile. Il a très bien paru. Il a fait 43 points en 52 matchs. Il s'en est à une saison de 68 points. Mais après ça, il y a eu une sécheresse pendant du mois de février jusqu'à la fin de la saison.
C'est la constance que ça va prendre, puis ça faut qu'il adapte. Mais j'ai hâte de voir. Là, écoute, pas le choix d'essayer le bénéfice du doute pour l'instant.
Si Drouin est capable de faire autant de points que Max Domi l'a fait l'an passé, ça va devenir un esti de bon joueur sur le top 6. Il est super rapide. Faut pas qu'il ait peur de shotter. Il est créatif au bout. On a besoin qu'un gars comme Drouin pour pouvoir s'améliorer. Puis cette année, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle mon petit prince. Il s'est coupé les cheveux, by the way.
Ah, je me disais, est-ce qu'il s'est fait lisser les cheveux vraiment bien lisses?
Non, il s'est coupé, puis il se promenait en gogoune quand je l'ai vu à TV l'autre jour.
Qu'est-ce qu'il filmait ses pieds à TV?
Ben, ils l'ont montré
en grand. Il buvait-tu Heineken? Attends, filme mes pieds.
Non, je sais pas.
on ressort des vieilles jokes de 10 ans. On revient sur le line-up, GF. À la défense, les paires de défense potentielles. Donc, mettez avec Weber, Chariot et Petrie et Kulak avec Fallin. Et en réserve, on a Riley et Yolson. Yolson, je veux comme pas le voir, là. Il est pas prêt, là.
Écoute, il a manqué. Manqué beaucoup, là. Le 2/3 de la saison facile l'année passée. Il y a des rumeurs qui disaient que le gars ne jouerait plus jamais au hockey de sa vie. Il est là au camp, il était là ce matin. Moi, je pense, à moins qu'il connaisse un escant de feu, là.
Ouais, ouais.
Mais je pense que ça va être bon pour lui de retourner en Ligue américaine. Puis de regagner la confiance. Puis après ça, si éventuellement on a des joueurs qui ne marchent pas ou des blessures, mais il pourra peut-être être un des. Ben là, défenseur qui va être calé le premier. Là, parce qu'il joue du côté droit. Fait que, tu sais, il va y avoir des joueurs partant qui délogent Fallin qui a de l'expérience, Mike Riley qui a de plus d'expérience. Puis True Weber, je pense pas qu'ils vont se déloger à moins d'une blessure. Fait que ça va être assez pour le bon noix.
Ouais, c'est à voir. Puis Dainette, Price et Kincaid, moi, je m'attends à avoir genre. 55-60 games de Price puis 25-30 games de Kincaid, mettons.
Dans un monde idéal, c'est ça qui devrait être pour un deuxième goaler. Fait que c'est pour ça que c'est important que ton adjoint gagne ses matchs. Il faut qu'il y ait une fiche supérieure à ça. Il faudrait qu'il gagne, je te dirais, dans un monde idéal, ça fait partie de mes recettes pour que le Canadien se rende en série. Il faudrait que Kincaid gagne le deux tiers de ses matchs.
Faudrait.
Oui.
Faut que Price soit dominant. Puis qu'il y a autant ses beaux cheveux lisses.
Une autre affaire, ça, mon GF, qui fait partie de
ta recette.
Ma recette. Il faut que Price connaisse pas de
ce genre de
mauvaise séquence qu'on l'année passée, qu'il avait mal commencé puis il a commencé à être bon, je pense, au mois de décembre, si je me trompe.
Ouais, faut qu'il domine. Là.
Là, il faut vraiment que ça soit genre du début à la fin, il faut qu'il soit en forme. Fait que je pense qu'ils vont bien gérer aussi son temps de glace avec Kincaid, surtout si Kincaid performe bien. Ça prend un Price en forme parce que si on va en série, ben là, c'est all-in avec Price. Là, il faut que Price soit dominant.
Ouais.
Une autre affaire aussi qui fait partie de mes recettes, c'est Shea Weber. L'année passée, il n'a pas joué avant le mois de décembre.
C'est vrai.
Là, l'année passée, il expliquait qu'il s'entraînait sans nécessairement savoir c'est quand il allait revenir au jeu. Fait que, tu sais, c'est comme dans ta tête, c'est pas pareil. Là, cet été, il savait, OK, bon, c'est telle date, on commence.
Puis, tu sais, il est réparé, là aussi. Il est plus blessé. Fait que...
Ben, c'est ça. Puis là, ça a l'air qu'aujourd'hui, là, tous les membres de mettons, c'était plutôt hier, là, tu sais, ceux qui font les tests physiques du Canadien, là. Ouais. Mais ça a l'air qu'il y avait tous une érection en regardant Weber lever des poids.
Man Mountain.
Écoute, le gars, là, ça a l'air qu'il était impressionnant, il y a un test physique. Vraiment impressionnant. Puis cool. Aujourd'hui, dans le camp d'entraînement, là, moi, ce que je lisais dans le feed Twitter, puis après ça, à la radio, j'écoutais les journalistes parler. Il te ramassait le monde, il volait sa glace. Tu vois que le gars, il est prêt à stipuler en est, ça commence. Fait que ça, c'est encourageant. Puis, ça va être une bonne nouvelle parce qu'on a manqué les séries de 3 points. Fait qu'avec Weber dans l'alignement, je pense que ça serait... Écoute, ça serait plaisant. Puis, GF, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter.
Non, moi, c'était tout pour moi, pour l'alignement du Canadien, en fait. Là.
Parce que là, pour ceux qui sont curieux de savoir, c'était quoi
les équipes.
Dans le camp, il y avait deux équipes qui étaient divisées. Fait que
les blancs et les rouges.
C'est ça. Fait que maintenant, on a un premier match, ça va être l'équipe A qui va jouer, après ça, l'équipe B et vice-versa. Puis après ça, ça va être les premières coupures.
C'est là qu'ils font leur test un peu là, de mélanger les trios puis de voir la chimie en des joueurs. Là.
Exact. Fait que des fois, c'est peut-être un élément pour dire, ah, ben ça pourrait être un trio pour le début de la saison. T'avais, dans l'équipe A, tu avais Drouin, Domi et Lekkonen. Fait que Domi est encore au centre. Puis l'année passée, on a vu un peu de Lekkonen avec eux autres. T'sais, il est responsable défensivement. Mais s'il est pour jouer sur le top 6, il va devoir vraiment être beaucoup plus productif.
Ouais.
Ça prend un gars qui produit sur le top 6. Fait que j'ai hâte de voir un peu Lekkonen, il est rendu où dans son développement. Il a quand même scoré 18 buts à sa première saison. Fait que j'espère que ça va aller en avant. Après ça, tu avais Cousins, Thompson et Dale Weiss.
Il
pourrait être peut-être sa quatrième ligne.
C'est vrai, j'ai oublié que t'es revenu, lui.
Mais écoute, Delwis, là, moi, dans ma tête, je le vois dans la ligne américaine. Il faut vraiment qu'il soit fort pour pouvoir faire le club.
Ouais, pour vrai, oui. Là.
Ouais, parce que tu sais, l'année passée, là, ce que j'ai vu, c'était un Delwis. C'est pas le
Delwis. C'était pas
le Delwis
qui jouait avec un podcast.
Écoute, il a l'air d'être un gars qui est fini et il a perdu sa glace. Là. Il a perdu sa hargne qu'il avait à l'époque. Ensuite, un petit trio que je trouvais quand même intéressant, c'était Udon, Suzuki et Jordan Wheel.
Okay.
Tu vois, Suzuki, là, dans le fond, au camp des recrues, Joël Bouchard avait jumelé Ryan Poehling, Nick Suzuki à l'aile avec le jeune Harvey Pinard.
Harvey Pinard.
Oui, son prénom, je pense c'est, je me souviens plus, je pense que c'est Raphaël. Je ne suis pas certain. Et puis, ils ont séparé à un moment donné parce qu'ils trouvaient que Poehling et Suzuki essayait trop de chercher sa glace à faire des passes. Il les a séparés, ça a mieux allé parce que Suzuki, à l'aile, il avait tendance à ralentir le jeu pour essayer de repérer ses joueurs. Fait qu'il joue comme un joueur de centre.
Okay.
Fait que s'il va jouer à l'aile, je pense qu'il va devoir améliorer son accélération. Puis encore là, dominer comme il l'a fait dans le junior. Fait que, écoute, encore là, tout dépend du camp d'entraînement, mais je pense que Suzuki va commencer à Laval, d'après moi. Et puis le quatrième trio, ça c'est clairement une équipe, un alignement pour Laval. Là. C'était Alexandre Alain, Jake Evans, Pizzetta, que je connais pas pantoute, puis Ryan Barber. Fait que d'après moi, ça s'en va à Laval sur un certain. À moins qu'un gars connaisse quand l'entraînement de malade. Là. Et puis à défense, tu avais Mété Weber. Une affaire qui est intéressante, c'était Brett Kulak avec Josh Brook.
Ah ouais, pas pire.
On s'entend que. Tu sais, t'as montré tantôt les 6 défenseurs. Excuse-moi.
Brooke n'est pas dedans, ouais.
On s'entend que Fallin, c'est le choix logique à cause du contrat qu'il a. Mais il y a un spot d'ouvert la troisième paire. Écoute, Josh Brooke, il a fait, je pense, 76 points en 62 games dans le junior l'année passée. Il produit, il bouge très bien la rondelle. Es-tu prêt pour jouer dans la NHL? J'en ai aucune idée, mais par contre, ça pourrait être à surveiller dans le cas. Imagine s'il fait le club, on aurait un autre recrue à défense.
Ouais.
Puis c'est un gars qui bouge très bien la rondelle. Là. Fait que, es-tu prêt ou il n'est pas prêt? Je ne sais pas. À suivre.
Je vais demander à Alex s'il est prêt ou il n'est pas prêt.
Puis après ça, mais là, je pense qu'on a notre réponse sur Noah Jolson. Il joue avec Xavier Ouellette.
Oh boy.
Fait que d'après moi, ça va être une paire qu'on va voir à Laval.
Ouais, ouais,
puis je pense
ouais.
que c'est bon pour Noah Jolson parce qu'il doit retrouver son synchronisme. Ouais. Dans l'équipe B, Tatar, Dano, Gallagher, ça bouge
Tatar.
Pas. Le troisième trio potentiel pourra être Byron, KK et Armia. J'ai rien à dire avec ça, mais c'est encore là. Tu sais, à un moment donné, ça marche pas. Tu peux peut-être jouer avec tes trios. Puis un jour, on va peut-être. Tu sais, Kotkaniemi est destiné à aller sous le top 6.
Ah, il faut.
Si
ouais.
tu t'annonces que ça va arriver. Ça va être à suivre au cours de la saison.
Mais pas très au niveau de Kotkaniemi, par exemple. Là, c'est une bonne progression. Il ne faut juste pas qu'il arrête. Là, c'est...
Non, c'est ça. Il faut qu'on continue puis peut-être avoir plus de temps de glace sur le power play.
S'il n'est pas prêt d'aller à 2, laisser les à 3. On verra bien.
Ça va être à suivre. Après ça, tu avais Verone, Ryan Poehling et Michael Pekka.
Michael Pekka.
Poehling, encore là, il est au centre. Fait que, écoute, parce qu'il joue avec des ailiers qu'on ne dirait pas qu'il va faire le club. Là. Pekka, je pense qu'il va le faire. Là. Fait que, j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui va se passer avec Poehling. Tu sais, GF, on parlait tantôt que Kotkaniemi pourrait se retrouver sa deuxième ligne dans un monde idéal avec Domi et Drouin. Tu penses-tu que Poehling pourrait être un bon... Imagine que Poehling connaît une saison à la Kotkaniemi, mais qu'il joue sa troisième ligne. Puis Kotkaniemi fait au-dessus de 50 points. On s'entend-tu qu'on va commencer à être fort au centre? Là?
On va être en business pas mal là, pour vrai.
Fait que j'ai hâte de voir ça. Et puis, la quatrième trio, pour moi, c'est pour le Rocket aussi. C'est Verbeek, McCarron et puis Belzile.
Ah, c'est encore là, McCarron.
Oui, il a signé un contrat d'un an. Puis après ça, d'après moi, c'est son chien est mort.
Et c'est pas mal fini, vraiment. On le verra pas que le CH cette année, lui-là. Là.
Puis, à défense, on a Charrett et Petrie. Après ça, une autre affaire. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis aujourd'hui pour dire que le gars qui pourrait surprendre au camp, Carl Alzner, puis il joue avec Christian Follin. Ça pourrait être la troisième paire, mais pas dans un monde idéal.
Je suis pas convaincu sur Osner du tout. Là, pour vrai, là, pour moi, il finit.
Écoute,
là.
Dans un monde idéal, il faudrait que Carl Osner connaisse un petit bon camp d'entraînement et qu'on l'échange avant le début de la saison.
Ah, ce serait malade, ça.
Fait à suivre.
Benjamin est capable de faire ça, passer des jambons. Là.
Oh oui, il l'a fait souvent.
Rappelez-vous Travis Moen.
Et voilà. Travis Moen, René Bourque. Ensuite, il y a un joueur que Bergevin était cherché de l'Europe à la fin de la saison. C'était Otis Leskinen. Puis il jouait avec Mike Riley. Fait que j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que, mettons, les gars qui jouaient, c'est comme Dale Weiss, il peut peut-être perdre sa place. Puis ça peut peut-être être un autre joueur qui va prendre sa position. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer.
Ouais, ouais.
Puis savoir si tu es officiel comme alignement pour les prochains matchs. La première game, GF, c'est lundi contre New Jersey.
Lundi le 3 octobre?
Non, je veux dire le match.
Ah, tu parles des préparatoires.
Oui, le 16. Fait que on va voir, 16, mais c'est bon, ouais. Écoute, pour revenir à la question de notre auditeur, où je pense que c'était sur Twitter ou Facebook, la question, je ne suis pas certain, là, qui disait, trouves-tu que c'est le statu quo, les jeunes, tout ça. T'sais, tout dépend des jeunes joueurs. S'ils performent bien puis qu'au camp d'entraînement, ils impressionnent comme Kotkaniemi l'a fait l'année passée, go! Puis je pense que Julien l'a prouvé par le passé qu'il n'a pas peur de garder des jeunes.
Et voilà.
Alors, c'était intéressant, mon Dieu.
Ça va être le fun, encore une fois, à suivre cette saison-ci. Je pense qu'on a plus à attendre qu'à l'année passée, fait que c'est à voir.
Si tu me permets, JF, je dois aller chercher un compatriote
qui a fait
son apparition.
Pendant qu'on va terminer sur un call-out, juste vous rappeler que de nous suivre tout au cours de la saison. Donc, on est sur Facebook, facebook.com/lasoiredupodcast. On est sur Twitter aussi, @soiredupodcast. Et soiredupodcast sur Instagram aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions tout le temps sur les médias sociaux. On est bien content de vous parler. De répondre à vos questions puis d'argumenter avec vous. Je répète que nos fans sont très respectueux de JF. J'ai jamais eu de monde qui ont été mettre de la merde sur nos posts.
C'est jamais arrivé. On n'est pas comme, mettons, un RDS.
On s'ostime, mais on s'en fout un peu en même temps. Fait que c'est tout le temps très respectueux.
Tous passionnés du sport puis c'est le fun d'argumenter.
C'est pour ça qu'on est encore là, d'ailleurs. Après, je pense qu'on est rendu à notre 8e saison maintenant. 7 ou 8 saisons de la semaine du podcast. Là. Donc, on poursuit. Et on poursuit dans les traditions aussi, JF, avec le call-out. Je me dégage les propos de Jeff.
Alors là, je vise toutes les journalistes, analystes et partisans du 91.9 et de TVA.
TVA.
Tabarnak! La saison d'hockey est même pas commencée que vous parlez déjà de congédiement. L'équipe n'a même pas joué une game préparatoire. Ils n'ont même pas joué une game la saison. Puis là, vous dites, ah, si on ne fait pas les séries, Bergevin, il va falloir qu'il décrisse. Claude Julien, il va falloir qu'il décrisse. First of all, là, vos gueules, OK? Vous me montrez à quel point vous êtes des hosties d'attardés. Même que je pense que certains d'entre vous, dont les initiales, c'est YB, qui passe à TV au 33 à l'époque, t'es un esti de retardé, toi. Hostie de calice. Gaston Terrien. Excuse-moi, je t'ai nommé. Ça en est un autre, là. Tabarnak, man. Ils sont tous en crise parce qu'on n'a pas été chercher un gros joueur. Toi, t'es prêt à sacrifier la jeunesse pour aller chercher un vétéran rouillé, esti, qui te ressemble puis qui se casse entre les craques d'escalier, sacrement. Calme-toi, calice. Les jeunes, on est là pour progresser. Là, tout le monde criait haut et fort. « Ah, ça prend une reconstruction! » Là, Bergevin a dit « On fait un reset. » Parce que dans le fond, c'est pour vous faire fermer vos gueules. On est en reconstruction actuellement. Parce qu'à Montréal, il faut qu'on fasse ça. Il n'y a personne qui veut venir à Montréal parce que les impôts, la pression, ils veulent pas venir à Montréal. Fait qu'on va les repêcher, ces joueurs-là, puis on va les développer, puis ils vont faire de nous un esti de bon club sacrément pour les 20 prochaines années. C'est pas bon non plus d'avoir un club juste avec des jeunes. Si c'est juste des jeunes, esti, ça va se fouiller dans le nez, puis ça va porter des chandelles de pétrolier, calice. Un moment donné, là, calmez-vous. Là, je vous ai tout à l'œil, je suis en pleine forme, puis à chaque fois qu'il y en a un tabarnak qui va dire de niaiserie, là, crée-moi, tu vas être étiqueté calice de cave, puis je vais en parler, tabarnak. C'est sûr que je vais en parler, je vous expose tout, esti. Comme l'application qui expose tous les pédophiles des parcs d'attractions, là, ben ça va être ça pour vous autres, tabarnak. C'est sûr et certain. Ouais, en tout cas. Alors, sur ça, je souhaite une bonne saison à tous ceux qui sont corrects et gentils. Et fuck you à tous ceux qui sont négatifs puis qui pensent que le club du hockey canadien, c'est de la merde. J'ai une nouvelle pour vous autres. Prédiction numéro 3, parce que c'est jamais 203. Un coach qui va perdre sa job bien avant Claude Julien, c'est Mike Babcock.
Ah ouais, ouais.
Je vous garantis une chose, le gars finit pas l'année à Toronto. Point final.
Wow. C'est un bon call-out, ça, Jeff.
Et voilà.
Et c'est la fin de notre épisode pré-saison ici.
J'ai soudainement très chaud dans ma main.
Le cadre est en feu et le cadre est prêt pour la saison qui s'en vient. Fait qu'on vous rappelle que le pool de la soirée du podcast, Jeff, sera disponible sous peu, donc probablement la semaine prochaine ou l'autre après, pour vous laisser un genre de deux semaines, une semaine et demie, deux semaines avant le début de la saison pour vous inscrire.
C'est ça.
Mais il va être prêt avant le prochain épisode qui sera dans vendredi en deux semaines. On a dit tantôt la date, c'était le je l'ai ici.
Le prochain show, c'est le 27 septembre.
Le 27 septembre qui sera le show de choix des poolers. Donc, le pool devrait être disponible pour vous.
Dans un monde idéal, NGF, dans le fond, on va travailler là-dessus cette semaine. Ouais. Je pense que si on est capable de le mettre en ligne pour le 20 septembre, ça vous permet de vous préparer, tu sais, faire un brouillon. Puis après ça, mais avec le camp, s'il y a des blessures, vous allez pouvoir changer des joueurs. Puis s'il y a d'autres joueurs avec restrictions qui re-signent comme Mitch Marner, mais là, vous allez pouvoir, mettons, changer votre alignement pour aller chercher le joueur qui n'était pas signé. Parce que j'ai pas le choix des mettre. Je vais essayer de trouver une façon de voir comment je vais les intégrer. Mais soyez prêts. Puis on invite. Écoute, j'aimerais ça qu'on batte notre record du nombre de participants sur notre pool GS. C'est quoi à peu près notre chiffre? Une soixantaine?
On était 77.
Fait que ça serait le fun qu'on se rende à 78 puis peut-être se rendre à un chiffre qui est Markov. By the way, j'aimerais faire un shout-out à André Markov. le camp d'entraînement a commencé aujourd'hui. Tu as 12 jours pas de contrat. Tu as signé avec le pire agent de joueurs qui existe sur la Terre. Jeff Mosin t'a invité chez eux au Sandbell pour manger des craquelins parce que tu as chialé qu'il n'y avait pas de furui à la table quand tu allais négocier avec Marc Bergevin. Je pense que c'est plus moi qui ai inventé ça. Mais non, Markov, comme dirait en russe, Vachnievski, ça veut dire va chier dans le langage. À moi, j'ai inventé le mot. Là. C'est comme dans Star Trek.
Et c'est là-dessus, Jeff. Je pense qu'on va terminer.
Ouais, ça. C'est ça, va chier, Markov.
Ouais, non, Markov, malheureusement, vont faire comme avec Charles Don, il manquer de respect, finira pas sa carrière avec le Canadien.
Ben non, puis t'as deux matchs à jouer 1000 games. Tu l'auras pas ton petit cadre.
Allez, signez-les, fais-le jouer 2 minutes, puis décalisse.
Ah ouais, on sortait le balai comme on a fait avec Plekanec.
Ouais, voilà. Donc, c'était l'épisode numéro 98 de la soirée du podcast. On se retrouve dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde. Ciao.